Aujourd'hui, nous sommes en région Bourgogne-Franche-Comté.
Positive, onde.
Franche-Comté, Franche-Comté, dans Franche-Comté, il y a Comté.
Une immersion proposée par Seb Dill.
Nous sommes dans les rues de Toiria, un petit village du Jura. Nous avons rendez-vous avec Paco et Amandine à la Fruitière 1900. Nous allons découvrir la fabrication du comté AOP à l'ancienne et au feu de bois dans la dernière fruitière de comté à l'ancienne. On va découvrir en public la fabrication. Allez, on pousse la porte.
Bonjour, j'arrive.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Bienvenue.
Merci.
Bonjour.
Je m'appelle Paco Janssen, j'ai 27 ans et je suis fromager depuis une petite dizaine d'années maintenant, mais surtout passionné de fabrication à l'ancienne. Heureusement qu'on est deux avec Amandine pour reprendre ce projet parce que j'aurais jamais pu reprendre ça tout seul. Il y a une partie fabrication, mais il y a toute une partie commerce, marketing et administratif qui est conséquente et que voilà. Il faut bien comprendre que c'est un projet qu'on peut faire seulement parce qu'on est deux. Moi tout seul, je n'aurais pas pu en tout cas.
C'est parti pour l'aventure avec Amandine, Paco et les visiteurs du jour. Alors là, on va planter le décor. Il est 8h du matin. On est dans la salle, dans la fruitière. On appelle ça comme ça. Il y a un grand feu avec un chaudron dessus. Il y a déjà... Il y a déjà du lait dedans, on entend, c'est mélangé tranquillement. Et là, en face de nous, il y a pas mal de bancs en bois. C'est là où les personnes vont pouvoir s'installer et assister à la fabrication. Alors, on va peut-être commencer à discuter avec Paco déjà, parce que là, il y a un seau qui sort. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça, c'est une partie de nos ferments lactiques que je vais mettre dans mon lait frais de ce matin. Et c'est ça qui me permet d'ensemencer mon lait en ferments, bactéries lactiques. Toutes les choses qui seront utiles pour l'affinage du fromage.
Là, on sent l'odeur déjà, il y a une odeur assez forte.
Voilà, c'est en fait parce qu'on travaille sur le petit lait de la veille. Donc, c'est le restant de notre fabrication, hein, le petit lait. Et bien, on va récupérer toujours le petit lait de la veille pour réensemencer le lait frais du lendemain, un peu le même principe que le pain au levain, quoi. Là, ça, c'est la présure. Donc, la présure, c'est ce qui va nous servir à faire cailler le lait. Et celle-ci, elle est d'origine naturelle, donc c'est d'origine animale, hein, la présure. Là, j'ai 450 litres de lait dans le chaudron et ça me fera qu'une seule meule de comté à la fin, à peu près de 40-45 kilos, quoi.
À qui les beaux le débile, à qui les lait le débile, débile si beau, débile aussi lait. Si lait un débile beau, c'est bien le beau débile.
Alors là, on sort le chaudron du feu.
Voilà, là on a fini la première chauffe, celle qui va nous permettre de mettre les ferments et la présure à bonne température. Donc là on le sort du feu et vu que le cuivre est bien épais et bien chaud, eh ben, on va mettre presque une heure à perdre un degré au début quand on le sort du feu. Donc ça garde relativement bien la chaleur, quoi. Le fromage AOP Comté, c'est déjà le premier AOP français. Donc c'est le fromage préféré des Français en termes de consommation. Et ensuite, nous, dans la filière, on est vraiment sur un esprit de coopérative encore, hein, de coopération. Et on doit tous travailler main dans la main pour, à la finalité, avoir un bon fromage. Donc c'est un fromage d'une quarantaine de kilos. Il faut environ 400 litres de lait pour produire une seule meule de Comté. Et il faut donc 20 vaches à peu près sur deux traites pour toujours une seule meule de fromage à la fin.
Il est 8h45, c'est l'heure d'ouvrir. Hop. Bonjour. Bonjour, bonjour, messieurs, dames.
Rentrez, rentrez.
Merci.
Merci.
Bonjour.
Voilà, là, vous avez encore un petit quart d'heure, soit pour vous balader ou allez vous installer sur les petits bancs.
D'accord.
Passez par là, la pièce là sur votre droite et vous montez les petits escaliers.
Merci beaucoup.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
On est en vacances mais pour la semaine et en fait, on a été conseillé, on nous a dit de venir là, que c'était super et qu'il y avait une démonstration de fabrication de comté.
Quand on m'a dit qu'il y avait un atelier pour regarder, moi j'étais bien partante.
Bon, est-ce que tout le monde va bien déjà ?
Oui.
Ça va, le réveil n'a pas sonné trop tôt pour être à bonne heure.
Bon, bah, je vais me présenter. Déjà, moi, je m'appelle Paco, j'ai 27 ans. Et la charmante femme que vous avez pu croiser en passant par le magasin, c'est Amandine qui a 24 ans. Et donc, nous, on a repris ensemble la fruitière il y a un peu moins de 2 ans. Ça fera 2 ans cet été. Donc, moi, j'étais plutôt déjà à la base, avant de reprendre ici, dans la fabrication de fromage à l'ancienne. Et Amandine, plutôt dans le commerce agroalimentaire, le marketing. Donc, on avait justement deux profils qui matchaient bien pour ce projet-là. Donc là, ce matin, on va avoir 2 heures et d'ici 2 heures, on aura quasiment fini la fabrication, hein, la transformation en tout cas du lait en fromage. Pour le moment, on a 450 litres de lait liquide. C'est pour le moment le même lait qu'on a le matin au petit déjeuner. Hein. Donc là, voilà, c'est encore du lait liquide. Et j'ai déjà commencé à travailler mon lait il y a 1 heure ce matin. Donc tout doucement, là maintenant, il va changer d'état. Donc changer d'état, ça veut dire qu'il va passer de l'état liquide à l'état solide. Donc dans environ 40 minutes, il sera solide. Et pendant ces 2 heures de fabrication, moi, je vais essayer de vous expliquer au mieux un petit peu ce qui se passe dans le lait, ce qui se passe dans la filière laitière aussi de l'AOP Comté. Mais il faut vraiment pas hésiter à poser des questions, hein. Même s'il y a un petit micro qui peut être impressionnant aujourd'hui, c'est pas très grave. Donc s'il y a des choses que j'aborde pas, faut pas hésiter à me demander. Ou même s'il y a des choses que j'aborde et qui sont pas claires, faut pas hésiter non plus vraiment à poser des questions et ce sera plus agréable pour tout le monde, quoi.
Ok, bien moi je poserai déjà bien une question. Quand est-ce qu'on mange ? Ah, je crois que ça va donner faim. Très très faim.
Pour le moment, on est sur l'étape de caillage du lait, donc c'est-à-dire le changement d'état un petit peu du lait. Est-ce que vous savez ce qu'on a mis dans le lait pour le faire cailler ?
La présure.
C'est ça, c'est la présure. Et ça, on en a besoin pour tous les fromages. C'est pas que pour le Comté, n'importe quel fromage. En fait, l'idée, c'est un petit peu la même pour tous les fromages. C'est qu'on va vouloir enlever une partie de l'eau du lait.
Qu'il est beau, le débit de lait.
Pour conserver plus longtemps le lait. C'était ça la problématique de base. Donc après, tu as différentes familles de fromages où on va enlever plus ou moins d'eau. T'as par exemple les pâtes molles comme le Mont-d'Or, le Camembert, le Minster, ceux-là t'enlèves un petit peu d'eau. Après t'as les pâtes pressées non cuites, donc les raclettes, les morbiers, les tomes. T'enlèves encore un peu plus d'eau que dans une pâte molle. Et nous on est sur la troisième famille, c'est les pâtes pressées cuites, donc le Comté, le Beaufort, les Mentales. Et là on va enlever un maximum d'eau du lait. Donc ça va être là où on a le moins de rendement, hein.
C'est quoi la
Et bien justement, ça c'est ma question. Qu'est-ce que c'est que ce petit flacon-là et d'où ça vient et... Parce qu'on en a besoin pour tous les fromages. Alors il y a deux types de présure, hein, qui existent aujourd'hui. Tu as la présure chimique recréée par l'homme mais qui celle-ci est interdite en AOP Comté. Donc là nous on travaille avec la présure naturelle.
Oui, la caillée et tout, voilà, de veau.
Voilà, donc c'est une partie en fait de l'estomac du veau, hein, où on va récupérer une enzyme. Parce que c'est pas une bactérie, la présure, c'est une enzyme. La légende, elle raconte bah, que tout a commencé il y a très très longtemps, hein, qu'on sait faire du fromage. Et ben, à l'époque où ils n'avaient pas de seau, ils avaient un peu des panses d'animaux séchés comme celle-ci. Et un beau jour, il y a un marcheur qui est parti avec son lait liquide dans sa caillette de veau. Il a marché plusieurs kilomètres. Et comme par magie, quand il est arrivé, c'était plus du lait liquide, mais du fromage blanc. Parce que le fromage blanc, c'est simplement du lait caillé. Donc c'est finalement ce qu'on est en train de faire un peu plus rapidement. Hein. Mais on va avoir ce lait caillé aussi. Les vaches. Je ne veux pas faire du lait à compter avec toutes les races de vaches. Est-ce que vous avez une petite idée de quelles sont les races? Parce qu'il y en a deux qui sont autorisées dans l'AOP Comté.
La Montbéliard.
La Montbéliard,
c'est la Simmental.
Et bravo. Bon, on a les deux gagnants au premier rang, voilà. On a la Montbéliard, c'est vraiment la star du Comté, on va dire. Parce que pour 95% du lait à Comté, c'est la Montbéliard, donc ça va être celle-ci. Et la deuxième qui est autorisée, c'est une cousine un petit peu, c'est la Simmental. Donc les deux, c'est des blanches tachetées marron. Hein. Pour les différencier dans les prairies, il y en a une qui est plutôt marron qui tire vers l'orange et l'autre plutôt marron foncé, brun foncé, quoi.
Me font les vaches font me. Me font les vaches font me.
Nous, voilà, en tant que fruitière, on a une zone de collecte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller récupérer notre lait n'importe où, hein, et jusqu'à très loin, parce qu'on a un cercle, un diamètre de 25 km autour de notre zone de production. Donc moi, ici, depuis l'atelier là, j'ai 25 km de rayon pour trouver tout mon lait. Et ça, c'est pareil pour n'importe quelle fruitière. Donc je ne vous ai pas dit, hein, Mais c'est vrai qu'on est les derniers à fabriquer comme ça à l'ancienne, c'est qu'il y a quand même plein de bonnes raisons. C'est que c'est beaucoup moins productif que ce qui se fait aujourd'hui dans une fruitière actuelle. Et pour le travail, c'est un peu plus de pénibilité pour l'humain que ce qui se fait aussi aujourd'hui. On a un peu soulagé quand même l'humain dans les ateliers modernes. Donc nous, en moyenne, on fait une meule par jour de fabrication, alors que les 139 autres fruitières, on est plutôt, on va dire, entre la deuxième plus petite va être à 15 meules et la plus grosse à 100 meules par jour de fabrication. Donc on est déjà hors compétition en termes de productivité. Hein. C'est pas grâce à nous que vous allez trouver du comté un peu partout en France, dans les rayons. Nous, on est plus là pour préserver quelque chose. Il peut y avoir un peu d'industriels en comté, c'est-à-dire des groupes qui sont assez grands, mais par contre, en fait, ils auront tous les mêmes contraintes que les autres fruitières, c'est-à-dire 25 km de rayon pour trouver tout leur lait. Et ça, c'est assez chouette parce que finalement, on n'aura jamais de concurrence, en gros, déloyale, hein, parce qu'on n'aura jamais un groupe qui peut aller chercher à 50, puis 100 km, puis 200 et fabriquer beaucoup plus que tout le monde en comté. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a encore 140 fruitières, alors qu'on pourrait en soi en avoir que 5 qui fabriquent la quantité que des 140. Mais en fait, quand vous prenez la route, vous voyez souvent des panneaux fruitières, c'est dû à cette zone de collecte. C'est que tous les 10, 20, 30 bornes, on doit recréer une fruitière si on veut pouvoir transformer ce lait en comté. Et ça, c'est un super point du cahier des charges.
Fruitière. J'ai employé déjà ce terme de fruitière. Paco emploie ce terme de fruitière. Fruitière.
Pourquoi vous êtes dans une fruitière et non une fromagerie? Même si fromagerie, c'est pas faux. Hein. Ici, on a ce terme fruitière qui est très répandu. Et ça depuis très très longtemps. Mais il a une origine, ce nom, est-ce que vous savez un petit peu d'où ça peut venir ça?
De la finage.
Non, c'est pas
la finage. Les paysans qui amenaient le fruit de la traite.
C'est ça, chacun en mettait le fruit de leur récolte, le fruit de leur travail ici en commun. Donc c'est un peu l'ancêtre et la même chose finalement qu'une coopérative, une fruitière. C'est là où tout le monde dépose le fruit de sa récolte et fait fructifier son travail. Donc il y a très longtemps, hein, parce qu'on a déjà retrouvé des écrits du terme fruitière dans le Jura du XIIe siècle. Donc c'est quand même assez vieux ce système-là. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire du comté avec le lait d'une seule exploitation. Ça, c'est interdit. Moi, j'achète 150 litres à 3 producteurs différents, là dans un rayon de 10 km. Pour pouvoir rentrer dans les clous du cahier des charges de l'AOP, parce qu'aujourd'hui je pourrais acheter 450 litres à une seule personne, parce que 20 vaches sur 2 traites, ils ont la capacité de les produire, mais moi je pourrais pas fabriquer du comté avec ça. Et méfiez-vous si un jour on vous vend du comté fermier dans le sud à un très beau prix, c'est louche parce que le comté fermier ça n'existe pas, c'est même interdit par l'AOP. Hein. On est obligé d'avoir un lait de mélange. Quoi. C'est vraiment pour préserver la tradition et la naissance un petit peu de ce fromage. Pour faire du comté, vous êtes obligé de le faire dans du cuivre. Si en contact avec le lait, ce sera toujours du cuivre. Dans l'AOP comté, c'est une obligation, sinon ils ne font pas du comté.
Ah, mesdames, voilà du bon fromage, celui qui l'a fait, il est de son village. Voilà du bon fromage au lait, il est du pays de celui qui l'a fait.
Donc là, on a commencé le caillage du lait. Donc jusqu'à il y a 5 minutes, il n'y avait aucune différence visuelle. Hein. C'était du lait liquide il y a encore 5 minutes. Et là, on commence à plutôt passer sur une texture yaourt à boire, on va dire. C'est un peu plus épais que du lait liquide. Et dès qu'on a vu ce petit changement, ça veut dire que dans les 5 minutes, on va devoir découper le lait caillé. Donc à partir du changement qu'on a vu, il faut vraiment rester à côté de votre chaudron et c'est pas le moment d'aller boire un coup chez le voisin parce que c'est un peu l'étape la plus importante quand même de la fabrication.
Oui, alors ça, c'était juste pour attirer votre attention puisque, comme Paco nous l'a dit, nous arrivons à un moment important de la fabrication. Bon, sinon l'alarme, stop, maintenant.
Nous, on va venir trancher manuellement. On va venir découper manuellement avec cet outil-là. Aujourd'hui, l'étape-là est très souvent mécanisée aussi par des tranches cahiers automatisées. Celui-là, c'est un tranche cahier manuel, donc on l'a refait en inox pour des raisons sanitaires, mais c'est exactement le même outil qu'ils utilisaient à l'époque. Est-ce que vous avez une idée de comment il peut s'appeler, sachant qu'il a un nom d'instrument de musique, celui-là? C'est pas la harpe et c'est pas la mandoline. c'est pas la luth.
La lyre.
C'est la lyre, c'est ça. C'est le petit instrument que vous avez dans Astérix et Obélix, là. Hein. Et ben, c'est. Voilà, c'est lui, il chante bien. Et ben, c'est un peu. C'est ce même outil-là. Sauf que nous, il nous sert à découper le lait caillé. C'est une étape très importante parce que c'est à cette étape-là qu'on va en fait réussir à séparer en tout cas la partie liquide d'une partie solide. Si je découpe trop tôt, si maintenant je me dis je ne veux pas être en retard et je commence à travailler avec la lyre alors qu'il n'est pas encore bien ferme non plus, eh ben, je vais tout dénaturer, je vais tout casser le travail un petit peu de la présure et là donc j'aurai 450 litres de bouillie que je pourrais donner au cochon en gros. Donc ce serait un petit peu dommage. Ou même si je scoule le chaudron pendant qu'il est en train de cailler, donc si le lait est en mouvement pendant qu'il est en train de cailler, ce serait la même chose. Il faut vraiment que le lait soit stable et inactif pour qu'il caille. Hein. Et donc ben ça ferait 450 litres pour les cochons. Mais si à l'inverse, on revient dans une heure et qu'on l'a laissé cailler, mais là cette fois-ci il aura trop caillé, on n'aura jamais arrêté le travail de la présure, ben, on aura quelque chose de très très ferme, hein, beaucoup trop ferme, et en fait l'eau sera piégée à tout jamais dans mon gel. Moi, là, c'est ça l'objectif, c'est que je la laisse travailler, la présure, pour avoir du rendement, mais que je la laisse pas trop travailler pour quand je découpe, qu'elle puisse libérer l'eau du lait. C'est une histoire un peu de jeu juste milieu. Hein. Faut pas la prendre trop tôt et faut pas la prendre trop tard non plus. Donc là on est pour l'instant juste sur du lait caillé et on va venir nous le trancher pour libérer, hein, pour séparer un petit peu l'eau qui est présente dans le gel. Parce que là pour le moment on a toujours 90% d'eau. Dans le lait vous avez 90% d'eau, là c'est toujours du lait même s'il est caillé, il est plus sous la même forme mais il y a toujours autant d'eau et nous on va vouloir un petit peu bah, libérer cette eau là qui est présente pour l'instant dans le gel. Et ça, c'est une étape commune à n'importe quel fromage aussi. On a du lait liquide le matin, on met une présure dedans pour le faire cailler. Et une fois que ce lait est caillé, on va venir le découper plus ou moins pour libérer plus ou moins d'eau du fromage finalement. Voilà un petit peu après à la fin du décaillage, on a obtenu nos grains qui font la taille d'un grain de riz à peu près, hein, plus ou moins. Mais l'objectif en tout cas est rempli, c'est qu'on a assez découpé. Et maintenant la prochaine étape en fait, et d'où l'intérêt de jamais arrêter de brasser, de très vite remettre en mouvement, c'est que quand on arrête le mouvement, bah, les grains ils vont se déposer au fond du chaudron, le petit lait va se mettre à la surface et ces grains ils ont un pouvoir d'attraction assez fort à ce moment-là. Donc si tu les laisses reposer, ils vont très très vite reformer des paquets de grains ensemble, hein, à la manière un peu d'une grappe de raisin. Et pour vous donner une image, c'est que nous en fait ça, faut vous imaginer que c'est des raisins justement, c'est que chaque petit grain est encore gorgé d'eau et nous on va vouloir maintenant, la prochaine étape, c'est de sécher tous ces grains de fromage. Donc l'idée, c'est que si vous avez des paquets de grains, bah, vous allez avoir du mal à sécher les raisins de l'intérieur justement. Ils vont rester humides, alors que tous ceux qui se promènent dans le petit lait, si vous brassez continuellement, ils vont bien sécher de la même manière. C'est pour ça, faut jamais laisser le temps aux grains de former des paquets. Jusqu'à la fin, ou à la fin, vous voulez qu'ils forment un énorme paquet qui sera le comté. Mais en attendant, pour bien réussir à les sécher, tous ces petits grains de fromage, bah c'est très important qu'ils restent en mouvement et qu'ils aient pas le temps de s'agglomérer les uns aux autres. Donc là, on va remettre tout ça sur le feu. Là, on est sur un système de chauffage, il n'y a pas beaucoup plus vieux que ça, hein. Mais c'est bien efficace. Donc j'avais gardé un petit peu de braise depuis ce matin pour ne pas avoir à rallumer un feu justement. Là j'ai mon petit lit de braise qui va me permettre juste de recharger, de raviver la flamme. a atteint nos 56 degrés de température. À 56 degrés, c'est important de sortir le mélange du feu pour qu'il arrête de monter en température. Ça ne veut pas dire que ça y est, notre grain est assez sec pour être du comté, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fromage, avant tout, c'est une histoire quand même de bactéries, de levures, de moisissures, de vie, hein, en fait. Et cette vie-là, elle est sensible à la chaleur. Plus on augmente de température, plus on détruit certaines bactéries, certaines levures, certaines moisissures qui sont présentes là dans notre lait. Là, j'appelle le renfort. Il y a Amandine qui va venir se mettre en face de moi pour qu'on aille à la pêche au fromage.
Ça va, tout roule depuis ce matin? Il vous explique bien? Ah, super.
C'est passionnant.
C'est gentil, parce que sinon elle me tire les oreilles au milieu.
Donc là, voilà, on va passer à l'étape de soutirage. Donc, ce qui veut dire qu'on va aller chercher tout le caillé, tout le fromage qu'on a créé depuis ce matin. Donc nous, on fait à l'ancienne, on fait un soutirage à la toile. Donc on va venir utiliser une baguette métallique, comme ça, qui est souple, dans laquelle on va entourer autour une toile en lin, comme vous voyez dans les bras de Paco. Et donc, avec cette baguette métallique, on va venir racler le fond de la cuve pour aller chercher tous les grains de fromage fabriqués ce matin. Là, petit à petit, en fait, Paco, en arrêtant le brassage, ça nous permet à ce que les grains, petit à petit, viennent se déposer au fond, tranquillement. Et ça va faciliter le fait de sortir le fromage. Là voilà, on a emprisonné 98-99% du caillé dans la toile. Donc là vous voyez, on se bat un peu avec la toile pour faire de jolis nœuds. Parce que vous l'aurez compris, on va venir soulever le sac à l'aide de ces nœuds là. Donc là il y a un bon 75-80 kg dans le sac. Il y a quand même bien du poids.
Là, la prochaine étape, c'est la tresse. Hein. Donc, faut pas trop traîner à remettre sous la tresse parce que vous entendez tout le petit lait qu'on perd. Hein. Pour le système de pressage, on est sur quelque chose de très ancien, mais de très efficace aussi. Et ce qui est vachement agréable quand on travaille dans un atelier qui a plus de 100 ans comme ça, bah, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose qui peut tomber en panne ou qui peut vous lâcher du jour au lendemain, à part le fromager. Donc là, il part pour une vingtaine d'heures de pressage. Hein. C'est mon premier travail en fait, de la matinée. Moi, quand j'arrive ici, c'est de démouler le fromage de la veille, de tout nettoyer ici, et puis je relance le feu pour chauffer le lait du jour, la fabrication du jour. Le sel, lui, va rentrer en jeu seulement demain matin. Donc vous pourrez voir à côté d'Amandine la petite cave d'affinage qui a la meule la plus proche de vous et de la vitre, c'est celle d'hier. Et dès que vous reculez d'une meule, vous reculez d'un jour de fabrication.
Rien à voir, mais j'y pense parce qu'on entend couler le petit lait. On n'en a pas parlé, mais le petit lait est donné pour nourrir des cochons. On ne le jette pas.
L'affinage du comté, c'est 4 mois minimum. Donc ça, c'est dans le cahier des charges. En dessous de 4 mois, tu pourras même pas l'appeler comté. C'est un fromage, un comté en devenir, mais c'est toujours pas du comté. À partir de 4 mois, il a l'appellation comté. Et après, il n'y a pas vraiment de maximum d'affinage, hein, en tout cas dans la réglementation. Et aujourd'hui, moi, le plus vieux que j'ai goûté, c'est 72 mois. Donc, c'est déjà quand même très costaud. Et après, on peut encore... j'ai déjà entendu parler de 128 mois. Donc, après, il n'y a pas de limite haute. Mais disons que ce qui se fait le mieux et le plus, en général, ça va être 3 déclinaisons. Un doux qui a environ 6 mois, un fruité qui aura environ 12 mois et un vieux qui a entre 24 et 36 mois. C'est ce qu'on retrouve le plus généralement. Mais on peut aller au-delà et c'est toujours du comté. Quoi.
Là, on a 860.
On est bien.
On faisait pour un bon mois de conservation et avec le sous-vide, vous l'ouvrez même dans 6 mois. On est bien, quoi. Alors dites-moi, on ajoute du coup là, je vous mets ça en sous-vide.
Ouais. Exactement.
Et on va prendre du fruité.
400, entre ça, ouais.
Et 400 et 400 en vieux et en fruité.
Voilà. Hein, comme ça, on en a pour...
Pas de problème, pas de problème. Ils
c'est très intéressant. C'est très intéressant et puis c'est très très bien expliqué. Donc il est vraiment super. Donc voilà, c'est top.
Du coup, vous repartez avec du comté.
Exactement. On en a pour 6 mois là.
Alors c'est ce qu'on croit, mais que je crois que quand on le goûte, il n'y en a pas pour 6 mois.
Ça va très très vite, ouais. Je pense qu'on va l'attaquer dès ce soir.
Ouais, alors un peu plus, si vous. Ouais, voilà. Deux tranches comme ça, s'il vous plaît, oui.
Deux sous vide.
Deux sous vide, oui, s'il vous plaît. Ah non, non, c'est pareil. Voilà, allez,
hop. On est en vacances, on est arrivé hier soir, et c'est la responsable du gîte qui nous en a parlé, et vu qu'on aime bien le fromage, et ben, on a décidé de venir visiter la fritière. Et franchement, c'était super intéressant, on a beaucoup aimé, et on a appris beaucoup de choses.
Il y a un site qui s'appelle Fruitière 1900 qui appartient à la commune, et celui-là, il est plus pour promouvoir le bâtiment communal, donc la fruitière dans laquelle on exploite ici, hein. Et ça, c'est plus pour valoriser voilà, le travail aussi de la commune qui veut garder cette fruitière assez intacte et à l'ancienne. Donc, ce sera plus pour les explications du bâtiment. Et à côté de ça, nous, on aura un site qui s'appellera Fromage d'Antan. Et celui-là est plus pour nous, notre société, donc nos produits ici au magasin, exprimer aussi nos jours de fabrication, les horaires de visite, expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir et ce qui se passe dans la fruitière 1900, s'il y a des événements aussi en préparation, tout sera expliqué sur le site.
Sinon, tout de suite, là, j'ai envie de dire miam, 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 miam.
C'est un fromage qui se mange comme ça, mais qui se cuisine aussi très bien. On a des super recettes, hein, déjà la fondue au comté aussi, qui est forcément très bonne et qui est là beaucoup de comté, mais on a aussi des soufflés au comté. On peut le décliner sous plein de formes différentes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que selon les âges d'affinage, eh ben, tu vas travailler un produit qui va t'amener plus ou moins de force et de caractère à tes plats aussi, quoi.
Un grand merci à Amandine et Paco pour l'accueil, et merci également à toutes les personnes présentes pour avoir supporté l'enregistrement et le micro.
Est-ce que vous avez une idée ? Dans le monde entier, quel est le pays où là les habitants mangent le plus de fromage? Nous, on est deuxième, la France.
Suisse.
C'est pas les Suisses, c'est pas les Italiens. C'est pas le Portugal.
Les Anglais, les Hollandais.
C'est pas les Anglais, pas les Hollandais.
C'est un pays d'Europe.
C'est un pays d'Europe. J'ai un deuxième indice, mais après les gens trouvent trop vite, alors je vous laisse ramer encore un petit peu. Pas Luxembourg, pas les Pays-Bas.
Espagne.
Pas les Espagnols non plus.
La
pas la Belgique, c'est la Grèce, c'est ça là. On pense pas à la Grèce quand on dit fromage, mais c'est les très gros mangeurs de feta, hein, les Grecs. Nous, on est en deuxième position ex aequo avec l'Allemagne. Donc les Grecs, ils sont à 27 kg de fromage consommé sur une année par personne. Et nous, on est à 25 kg par personne et par an, avec les Allemands. Donc ils nous mettent 2 kg par an, 2 kg sur une année, c'est 4 raclettes, 3 fondues et on passe en pole position l'année prochaine. Si on arrête, on fait un petit effort. Juste un petit mot aussi pour finir et clôturer la visite. Il faut bien comprendre que nous, on est là plutôt pour préserver un savoir-faire, un patrimoine, des gestes et des outils qui disparaissent, mais pas pour dire que c'était mieux fait avant, parce que c'est pas forcément le cas, hein. Mais c'est juste qu'en fait, ce qui nous tient à cœur, c'est qu'il y ait encore les deux modèles de fabrication. Aujourd'hui, en comté, on est les derniers, et ce serait dommage, un petit peu, même si on a bien besoin de l'automatisation, ce serait dommage de ne pas se rappeler qu'est-ce qu'on a automatisé, parce que ce qu'on a automatisé, finalement, c'est ces vieux ateliers, hein, ce qu'on a vu ce matin, c'est exactement ce qui se fait encore aujourd'hui en fruitière, mais on a remplacé, on a mécanisé, mais les gestes en soi sont les mêmes, même s'ils sont plus faits par l'humain, c'est un décaillage reste un décaillage, on va toujours vérifier aussi ce grain à ce moment-là, l'objectif est toujours le même, donc nous on est plus là voilà, pour conserver quelque chose, donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Merci beaucoup à vous d'avoir assisté à la fabrication.
Merci pour leur participation involontaire à Charles Trenet, Marcel et son orchestre, Les Quatre Barbus. Musique additionnelle, John Bartman.
Positive Onde.
Sur votre radio préférée, puis en podcast sur toutes les plateformes. Info sebdihl.fr. Sebdil.fr.
C'est fini.